Du lundi au vendredi à 14h, c'est Culture Science. Aujourd'hui, Révolution médicale, René Friedman.
Révolution médicale. Une émission de René Friedman. Qui reçoit aujourd'hui le professeur Philippe Kourilski pour parler de la nouvelle science de l'immunologie. Bonjour Philippe Kourilski.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour la saison 2. Je dis la saison 2 puisque nous avons eu un entretien, mais votre passé et vos activités sont tellement vastes que nous n'avons vraiment pas épuisé le sujet. Et je voulais donc, et vous avez accepté, je vous en remercie, que vous reveniez pour que nous rentrions dans le sujet de l'immunologie. Alors que nous avons parcouru ensemble, votre passé de polytechnicien, de généticien, d'immunologiste. Et on va bien sûr détailler ce que c'est que l'immunologie et votre vision de l'immunologie. Le fait que vous avez été à l'Académie des sciences, au Collège de France, dans cette chaire d'immunologie moléculaire, que vous avez été directeur général de l'Institut Pasteur. Alors, sur le plan immunologique, c'est quand même là, on est dans l'action pratique. Et d'ailleurs, nous viendrons, si vous le voulez bien, en deuxième partie sur les vaccins, contestés, pas contestés, développés, importants. Nous verrons, bien sûr, vous êtes, j'ai envie de dire, compte tenu de votre parcours, bien sûr, commandeur de la Légion d'honneur et membre d'Academia Europaea. Vous avez donc aussi, vous êtes préoccupé de l'organisation de la recherche. Comment donc avoir une recherche en France qui soit la plus tonique, la plus productive, la plus féconde, on va dire, possible. Et vous avez donc mené des éléments de réflexion que nous avons abordés la dernière fois, qui sont donc sur le principe de précaution, sur la différence entre l'altruisme et la générosité. Sur le fait aussi, qui sont d'ailleurs des titres de vos livres, je dirais que vous avez publié, car vous avez une bonne bibliographie personnelle, La science en partage, les principes de précaution, et tout récemment, donc, Le jeu du hasard et de la complexité chez Odile Jacob, où vous exposez un peu une somme de la vision de ce que c'est que cette science de l'immunologie et vos conceptions aussi, parce que c'est pas uniquement descriptif, c'est renouveler, d'ailleurs vous le dites bien, une nouvelle science. Alors déjà l'immunologie, pour la plupart des gens, ils savent pas ce que c'est, si ce n'est qu'il y a des rejets, on a bien compris, on se défend contre des agressions, mais quel est le substrat de tout cela, c'est encore en partie mystérieux pour la plupart des gens, un petit peu pour vous aussi, mais pas beaucoup moins que le Quidam, soyons clairs. Professeur Philippe Kourilski, donc jeu du hasard et de la complexité. Pourquoi ce titre d'ailleurs ?
Eh bien parce que l'immunologie, en fait, c'est une partie du système des défenses naturelles. Et je pense qu'il faut le voir comme ça. Si j'étais libre de tout faire, ce qui n'est pas le cas,
vous êtes libre de tout dire en tous les cas.
Je rebaptiserais l'immunologie, je crois, parce que je pense que le terme est effectivement peu compris. Il renvoie la notion d'immunité, on peut lui revenir assez à racine latine, mais enfin, le problème, c'est bien d'être défendu. Et donc, comme je l'exprime dans ce livre, dès le début, le problème n'est pas seulement de vivre, c'est de survivre. C'est-à-dire que l'organisme est construit de telle sorte que, bien entendu, il se développe, il vit, il existe, il y a les fonctions essentielles pour faire ça. Mais il faut aussi qu'ils se défendent, qu'ils survivent dans des milieux qui peuvent être hostiles. L'espace qui est dévolu dans l'organisme à ces systèmes de survie, bon, c'est très difficile à chiffrer, c'est imprécis, mais enfin en gros, c'est probablement au moins 20% de l'organisme sert à ça, c'est pas rien. Bon, c'est complètement diffus, c'est complètement distribué dans le corps humain.
Oui, parce qu'on ne sait pas où ça se situe.
Non. On sait un peu où il y a ce qu'on appelle les organes lymphoïdes.
Voilà, donc les ganglions, le thymus,
voilà, le thymus, la rate. Bon. Et puis, il y a tous ces systèmes de circulation de cellules qui vadrouillent dans tous les sens, à toute berzingue, dans tout l'organisme. Et il y en a quand même quelques milliards, c'est pas rien. Et puis, il y a le fait qu'en réalité, chaque cellule de l'organisme, ou presque, est dotée de mécanismes de défense. Donc, quand vous faites la somme de tout ça, encore une fois, c'est très difficile à évaluer, mais c'est beaucoup, beaucoup d'attention, si je peux dire, et donc un pourcentage de gènes, une fraction de l'énergie qui est dévolue à la défense de l'organisme. Alors, cette défense, c'est la défense contre quoi? Et là, on rentre dans une notion qui est essentielle et qui, à mon avis, permet de faire un peu éclater le cadre de l'immunologie ordinaire, qui, incidemment, ne m'a pas entendu pour éclater. Hein. Il est évident que ce que j'explique dans mon livre est quelque chose qui mûrit depuis longtemps. Mais enfin, on se défend en réalité contre des ennemis qui sont à l'extérieur et des ennemis qui sont à l'intérieur. Mmh. Les ennemis qui sont à l'extérieur, ce sont essentiellement les agents infectieux. Si on revient à la notion de l'évolution, en réalité, ce contre quoi nous nous battons le plus, à part malheureusement d'autres hommes lorsque nous faisons la guerre, ce sont les agents infectieux. Mmh. Alors quelques conditions climatiques, etc. Mais fondamentalement, ce sont les agents infectieux.
Tout compris virus, parasites.
Alors, virus, bactéries, parasites. Mm. Alors, on en parlera à propos de la vaccination. Mm. Il y a une tribu d'agents infectieux qui. Bon. Et donc, quand on regarde l'évolution des espèces, on voit bien qu'il y a en réalité, me semble-t-il, deux types d'évolution. Une sorte d'évolution de très long terme, dans laquelle on voit apparaître de nouvelles fonctions, etc. Mais chaque espèce baigne dans un écosystème ou des écosystèmes dans lequel elle se défend contre des agents infectieux et elle développe des systèmes de défense qui sont particuliers, en gros, à chacun d'entre eux.
Mais quand vous dites particulier à chacun d'entre eux, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de mécanisme général de ce principe de défense à toutes les espèces?
Si. Alors, il y a des mécanismes singuliers, particuliers pour tel ou tel agent infectieux, et puis il y a des mécanismes généraux, mais ils sont encore plus généraux qu'on ne croit, parce qu'en réalité, ils s'adressent aussi aux ennemis de l'intérieur, parce que nous avons des ennemis à l'intérieur. Ces ennemis à l'intérieur, c'est quoi? Ben, c'est d'abord les agents infectieux qui ont pénétré. Une fois qu'ils sont rentrés, c'est bien gentil, mais ils sont dedans. Et il y en a certains qui se cachent dans l'organisme pendant des années, voire des décennies. Ça peut être des virus qui sont intégrés dans les génomes, comme on le sait. Ça peut être le bacille tuberculeux caché dans des macrophages. Ça peut être etc., etc. Donc, on a des ennemis à l'intérieur. Mais quand on raisonne de cette façon-là, et je pense que c'est un apport peut-être de ce livre, c'est qu'on peut élargir ça à toutes les erreurs qui se produisent à l'intérieur de l'organisme. Et pour dire les choses autrement, je mentionnerai que pour se défendre contre un agent infectieux, et je reviens à votre question, il y a deux manières. La manière 1, c'est de se défendre spécifiquement contre l'agent infectieux. La manière 2, c'est de repérer les anomalies qu'il engendre dans l'organisme. Et du coup, on lutte contre les anomalies parce que les anomalies signalent qu'il y a un agent infectieux. Et c'est effectivement le cas. Nous avons à l'intérieur de nous-mêmes des mécanismes de défense qu'on appelle en gros immunologie mais qui les débordent. Et ces mécanismes de défense sont dirigés à la fois contre les ennemis de l'extérieur, donc les agents infectieux, et contre nos ennemis de l'intérieur, qui sont les nombreuses erreurs qui se produisent dans notre organisme.
Pour que nos auditeurs comprennent, c'est par exemple le cancer, le fait qu'une cellule se démultiplie et ne se limite plus, est-ce que c'est un des thèmes qui pourrait avoir...
C'est exactement l'un des thèmes majeurs. C'est-à-dire que, laissez-moi vous faire la liste des erreurs les plus communes.
Oui, bien sûr.
Donc, la première erreur commune, c'est les erreurs de réplication des gènes. Donc, la machinerie qui fabrique l'ADN est très précise, elle est précise à 1 sur 1 milliard. Mais il se trouve que nous avons plusieurs milliards de paires de bases, ce qui veut dire en réalité qu'il y a une erreur ou plus à chaque division cellulaire, en gros. Donc, la réplication des gènes fait des erreurs et du coup nous engendrons dans notre organisme de plus en plus de cellules mutantes et l'accumulation d'un certain nombre de mutations peut arriver à des dérèglements, des règlements qui donnent des cellules qui commencent à proliférer hors de contrôle et on a effectivement l'origine d'une grande partie des cancers. Donc ça c'est un premier type d'erreur. Mais vous avez d'autres types d'erreurs. Par exemple, la machinerie qui fait des protéines. Donc c'est la base hein, du système vivant. Dans une cellule, vous avez des gènes qui fabriquent de l'ARN messager, qui fabriquent des protéines. La machinerie qui fait ça fait des erreurs à une fréquence bien supérieure, puisque un acide aminé dans une protéine sur 100 000, et même plus, est faux. Il y a une erreur d'incorporation. Donc, il y a des déchets. Et donc, nous sommes un système qui n'est pas parfait, alors qu'évidemment, on imagine la perfection biologique, puisque, après tout, ça marche quand même sacrément bien. Eh bien, ce n'est pas comme ça que ça se passe, parce qu'en réalité, il y a énormément d'erreurs. Et pourquoi y a-t-il tant d'erreurs? C'est parce que c'est complexe. Et donc, j'en arrive enfin à vous répondre sur la question du titre de mon ouvrage. « Le jeu du hasard et de la complexité ». Le hasard, ce sont les hasards de la vie. Il faut que nous soyons défendus contre les hasards de la vie, qu'ils viennent de l'extérieur ou qu'ils viennent de l'intérieur, c'est-à-dire, en gros, les agents infectieux, les erreurs internes. Et par ailleurs, la complexité, c'est la complexité qui est celle de notre organisme, et on pourra peut-être en parler plus, complexité absolument incroyable, complexité qui est celle qui est utilisée pour répondre au hasard de la vie, en même temps qu'elle est elle-même génératrice de hasard.
C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait dire que ce qui est extraordinaire, c'est que ça ne s'emballe pas tout de suite, très vite, et que, par exemple, des cellules anarchiques, cancéreuses, tout ça, ne viennent pas encore plus fréquemment que ce qu'elles arrivent. Parce que le système est tellement complexe que, effectivement, comme vous dites, les erreurs de programmation, je ne parle pas des agents extérieurs, pourraient exister encore plus, à moins qu'elles existent, mais qu'elles soient corrigées.
La réponse est qu'elles existent, simplement, elles se produisent au hasard, donc beaucoup n'ont pas vraiment d'importance fonctionnelle. Après tout, si vous voulez, quand une mutation se produit à la suite d'une erreur et que la cellule meurt, c'est pas très grave, ça fait une cellule de moins. Donc en gros, on a des milliards et des milliards de cellules, donc une de moins, bon, ok. Et en gros, on peut dire que c'est une cause de vieillissement, si vous voulez. Donc c'est pas si grave. Là où ça devient grave, c'est quand la mutation ou l'erreur touche un gène fonctionnel qui justement permet d'échapper au contrôle de l'organisme. Et à ce moment-là, effectivement, on va vers les cancers ou des maladies auto-immunes ou autre chose. Mais effectivement, on ferait beaucoup plus de cancers s'il n'y avait pas des mécanismes de contrôle qui éliminent la plupart des cancers. Et une partie du système immunitaire sert certainement à limiter le nombre de cancers que nous faisons.
Alors, cancer, tout le monde comprend. Vous avez utilisé le mot maladie auto-immune. Est-ce que vous pouvez donner des exemples et surtout peut-être une des maladies qui vous a le plus passionné sur le plan médical, j'entends?
Les maladies auto-immunes, c'est à mon sens ce que l'on comprend le moins bien aujourd'hui dans toute l'immunologie. Donc les maladies auto-immunes, vous avez l'arthrite rhumatoïde, vous avez la sclérose en plaques, vous avez le lupus, franchement, ce sont des maladies qui, sur le plan de l'immunologie, ne sont pas très bien comprises. Ce que l'on sait, c'est que dans toutes ces maladies, le système immunitaire attaque une partie de l'organisme. Donc il est dévoyé de sa fonction de s'attaquer aux ennemis pour s'attaquer à des parties saines de l'organisme. Il faut en quelque sorte relativiser et voir un peu ce qu'est une réponse immunitaire. Nous avons en nous des armes de défense contre des agents infectieux, par exemple, qui sont de véritables bombes atomiques. Nous avons en nous des systèmes de défense qui sont capables de destruction absolument colossale. On sait très bien que lorsqu'il y a une infection par l'hépatite B et une attaque du foie, une partie des dégâts sont causés non pas par le virus, mais par le système immunitaire qui, en détruisant les cellules infectées par le virus, engendre des dommages collatéraux. On peut regarder un peu d'un tout petit peu plus près les armes qui sont utilisées dans un langage effectivement un peu guerrier, hein, les armes qui sont utilisées par le système immunitaire. Vous avez certaines armes qui sont assez imprécises finalement. Par exemple, lorsque vous émettez des radicaux libres au voisinage d'une cellule, ça définit un petit diamètre et ça peut détruire pas uniquement la cellule qu'il faut détruire, mais c'est comme ça que le système fonctionne. Et donc, vous avez des conditions dans lesquelles l'accumulation des systèmes de défense dans un système, dans un lieu donné, dans un contexte donné, se dérègle et finit par attaquer une partie de saine de l'organisme. Et c'est donc sur ce mode, disons, au sens très général du terme, que résultent les maladies auto-immunes. Pour prendre les maladies auto-immunes, ça nous amène à une notion qui, je dois dire, m'est chère, qui est celle-ci. Il n'est pas du tout impossible qu'il y ait des coïncidences de formes entre, par exemple, certains agents infectieux et des protéines, des motifs qui figurent dans notre organisme. Et donc, il est parfaitement possible qu'il y ait des réactions croisées. Et qu'un système de défense contre un certain type de virus déclenche une réponse qui effectivement reconnaît des protéines du soi, des protéines de l'organisme. Il y a des exemples relativement bien documentés avec des virus de type Coxsackie et des pathologies cardiaques. Jusqu'où cela va ? Pourquoi est-ce que dans certains cas c'est mieux contrôlé que dans d'autres ? Très franchement, je n'en sais rien et je crois qu'on n'en sait rien. Mais cette idée qu'il puisse y avoir des réactions croisées nous amène aussi à cette autre forme d'erreur qui est de penser que tout est tellement spécifique dans l'organisme que tout est parfait au niveau des reconnaissances qui fondent tous ces systèmes. Et la vérité, c'est qu'il y a des réactions croisées. Quoi qu'il arrive, la reconnaissance n'est pas parfaite et que de même que la synthèse des protéines, la synthèse des gènes fait des erreurs, les reconnaissances font elles-mêmes des erreurs et peut-être c'est l'une des origines de ces pathologies.
Alors vous décrivez des rencontres improbables entre deux cellules, entre les cellules et les ganglions qui sont donc le substrat d'un système de défense, et puis sur le thymus et son rôle. Qu'est-ce que vous voulez signifier par rencontre improbable ?
Je vous donne un exemple. Je me suis fait vacciner, je recommande cela d'ailleurs, contre la grippe il y a quelques jours. Donc cela veut dire que le vaccin m'a été injecté et en gros il y a un dépôt qui est formé dans un endroit de l'épaule. Très bien. Et maintenant, il faut pour que la vaccination se déclenche qu'il y ait une réponse dite d'immunité adaptative qui implique des cellules qui sont spécifiques.
On va distinguer adaptative et défense innée, c'est ça ?
Défense innée, oui. Ouais. Alors, les défenses innées sont à la fois celles qui fonctionnent immédiatement et celles qui sont les plus précoces dans l'évolution. Les défenses adaptatives sont apparues au cours de l'évolution, de façon assez étrange et intéressante d'ailleurs, mais c'est en gros les anticorps et ce qui permet de synthétiser les anticorps, c'est-à-dire des cellules T. Alors les termes sont un peu barbares, mais ce qui est important de savoir, c'est que vous avez ces deux catégories de cellules, celles qui portent et font des anticorps, celles qui portent les récepteurs des cellules T, et le point clé, c'est de savoir que les deux doivent fonctionner ensemble pour arriver à une bonne réponse, et que pour chacune des deux, vous avez en gros 1 milliard de cellules différentes dans l'organisme. Donc maintenant, je vous pose la question, très bien, tout ça circule dans l'organisme, vous avez des milliards de cellules B d'un côté pour les anticorps, de cellules T de l'autre, et il faut que les quelques cellules spécifiques que vous avez dans ce mélange reconnaissent le vaccin contre la grippe que vous avez dans un endroit donné du corps. Donc si vous prenez ce problème comme un mathématicien basique en disant dans un milieu fluide où la diffusion est libre, les probabilités seraient de temps, vous n'arrivez à rien parce que les probabilités sont trop faibles. Or, ça marche et donc il faut bien qu'il y ait un système qui fasse que ça marche. Et la manière dont ça marche, c'est que vous avez un système, une espèce de colonne à plateau, si j'ose dire, qui fait que les rencontres sont organisées de telle sorte que les rencontres improbables voient leur probabilité augmenter. Et vous avez des organes qui sont construits pour ça, avec des systèmes de circulation qui sont faits de telle sorte que les cellules sont fléchées pour un circuit particulier. Elle roule en quelque sorte sur des cellules qu'on appelle des cellules dendritiques qui exposent l'antigène, le vaccin en l'espèce. Et même quand il n'y en a que quelques-unes, elles reçoivent immédiatement un signal de prolifération. Et la topologie du système est construite de telle sorte que les rencontres avec la deuxième catégorie de cellules, puisqu'il faut que les cellules B et T se rencontrent quelque part, est elle-même optimisée. Le résultat de tout ça, c'est qu'on peut calculer que ça se produit en moyenne en quelques heures et certainement moins d'un jour. Et donc, ce qui était improbable se produit.
Donc, on a bien compris qu'on a un système, je dirais, qui s'est adapté, un système inné qui va nous défendre, contre la multiplicité des agressions internes ou externes. Et il y a un système, on emploie beaucoup le mot, de complexe d'histocompatibilité. Alors là aussi, la terminologie n'est pas simple à comprendre pour le Quidam, mais c'est quand même la base de ce phénomène d'acceptation ou de rejet des cellules qui sont différentes, qui peuvent être agressives ou au contraire positives. Je pense à la grossesse, par exemple, puisque c'est aussi des cellules étrangères qui vont être acceptées par l'organisme. Donc, ou les greffes, tout ce phénomène, qu'est-ce qui fait qu'une greffe va être rejetée ou pas rejetée? Ou bien je parlais dans le modèle des grossesses, des fausses couches à répétition ou de la maladie abortive. Donc, est-ce que vous pouvez nous resituer, avant que nous passions au thème de la vaccination, où je vous attends de pied ferme, Philippe Kowalski, qu'est-ce que c'est que ces groupes HLA? Tout le monde connaît les groupes sanguins, mais les groupes HLA, c'est moins clair.
Le groupe HLA a été une immense découverte qui a valu le prix Nobel à Jean Dausset et c'est une très très belle, une magnifique histoire scientifique. Moi, je la présenterai comme cela. Je vous ai dit que pour que le système de défense fonctionne correctement, il doit détecter des anomalies. Des anomalies où ? Ben, notamment des anomalies dans les cellules. Et dans les cellules, c'est pas seulement à l'intérieur, à l'extérieur des cellules, c'est aussi à l'intérieur des cellules. Parce qu'évidemment, quand une cellule fonctionne de travers, on peut imaginer qu'elle garde en gros ce qu'elle a à la surface et que du coup, on n'arrive pas à voir ce qui se passe à l'intérieur, alors que c'est là que l'anomalie doit être détectée. Évolutivement, il fallait inventer quelque chose qui permette à une cellule d'exposer à l'extérieur ce qu'elle a dans le ventre. Alors, ça paraît mission impossible, quelque part, sauf que l'astuce, c'est de dire, oui, mais pas tout ce qu'elle a dans le ventre, un petit échantillon suffit. Et le petit échantillon, c'est de présenter à la surface des petits morceaux des protéines avec des molécules qui les exposent, donc, et qui les présentent, comme on dit dans le jargon. Donc, on appelle des molécules présentatrices. Donc, ces molécules présentatrices, elle s'attache à des peptides qu'elle pioche à l'intérieur et elle les expose à l'extérieur. Et il se trouve que ces molécules sont les molécules HLA.
HLA, c'est-à-dire ?
Alors HLA, c'est un groupe d'histocompatibilité, antigène, leucocytaire, le terme historique, on dit maintenant complexe majeur d'histocompatibilité ou CMH. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à la surface de chacune de nos cellules, en gros, il y a 1 million de molécules HLA qui exposent chacun un peptide. Et donc, en fait, il y a bien une représentation à l'extérieur de ce qui se passe à l'intérieur. C'est un échantillonnage statistique, dans la mesure où ça varie dans le temps. Ça ne représente pas tout, mais ça représente une bonne partie de ce qui se passe.
Autrement dit, les cellules Kurilski, c'est les cellules Kurilski.
Alors, les cellules Kurilski sont les cellules Kurilski. Et les cellules Friedman sont les cellules Friedman parce que nos HLA sont différents. Et du coup, ce que nous exposons comme peptides à la surface, comme morceaux de protéines, ne sont pas les mêmes. Et du coup, nos systèmes immunitaires sont différents à cause de cela. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que c'est différent ? Alors il y a plusieurs explications. L'une des explications, c'est que finalement, quand on est infecté par la grippe, encore une fois. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des petits bouts du virus, c'est-à-dire des protéines du virus de la grippe, qui pointent le nez à la surface, présentées par le HLA. Donc, moi, je vais présenter certains bouts du virus, et vous, vous allez en présenter d'autres. Donc, nous ne réagissons pas exactement de la même manière. Donc, quelque part, nous sommes inégaux en termes de présentation. Effectivement, cette inégalité se traduit de temps en temps par le fait que, malheureusement, certaines personnes sont plus sensibles à un agent infectieux que d'autres. En revanche, ces mêmes personnes peuvent être plus résistantes à un autre agent infectieux que le premier. Et au total, le grand bénéficiaire, c'est la population, parce que la population dans son ensemble est mieux protégée par cette diversité qu'elle ne le serait par une simple... un système qu'on appellerait monomorphe, qui n'aurait pas de variation. C'est l'explication la plus courante. L'autre est celle que vous avez mentionnée, et là, bien sûr, c'est vous qui êtes compétent beaucoup plus que moi, c'est la question de la grossesse, dans laquelle il semble bien que la diversité du HLA soit plutôt favorable à la croissance du fœtus et à son développement que l'homogénéité parfaite.
Un autre terme aussi qui revient souvent dans le thème de l'immunologie, qui a à faire presque à la psychanalyse, c'est le soi et le non-soi. C'est-à-dire que là, il y a une espèce de base biologique de ce qui définit le soi, de ce qui est autre, étranger ou différent, en tous les cas.
Vous avez raison d'invoquer les psychanalystes, parce que certains s'y sont effectivement intéressés, mais je pense qu'on peut aborder la question comme cela. Il y a forcément du non-soi. Hein. Un virus qui nous attaque, il fait partie du non-soi. Bon. Incidemment, comme système de défense, il peut chercher à imiter le soi, parce que comme ça, il va mieux se dissimuler. Hein. Ça, on en parlera à propos de la vaccination. Et donc, il y a du soi et du non-soi. Alors, la question, c'est la question de la discrimination. Comment on fait? Alors, la première idée, ça a été de dire, ben, c'est très simple. Dans le développement du système de défense, tout ce qui est réactif contre le soi, contre les protéines, les éléments qu'on a dans le corps, tout ça disparaît au cours du développement. Donc, on n'en parle plus. Alors, tout devient simple, puisque tout ce qui nous attaque, tout ce qui vient de l'extérieur, c'est du non-soi. Comme il n'y a rien qui réagisse contre le soi, ça réagit, point barre. En réalité, ça ne marche pas comme ça, parce que nous sommes remplis, par exemple, d'anticorps autoréactifs. Donc, ils réagissent contre le soi. Donc, en fait, notre système réagit contre le soi. Et la résolution de ce paradoxe, c'est que il ne suffit pas de réagir, il faut plusieurs éléments de contrôle pour arriver à une réaction. Donc le fait d'être réactif contre le soi ne suffit pas à déclencher une réponse immunitaire, il faut d'autres conditions qui sont créées par l'environnement, le virus, etc. Au total, on arrive à inverser complètement la vapeur, si j'ose dire, la vapeur intellectuelle, pour dire que, après tout, pour bien se défendre contre le non-soi, il faut apprendre le soi. Et donc, effectivement, si l'on veut en arriver à la culture grecque, au gnotisoton de Socrate ou au psychanalyste, il y a effectivement, dans cette notion d'apprentissage, quelque chose de tout à fait intéressant à considérer. Et c'est d'ailleurs cette notion d'apprentissage qui, quelque part, rapproche le système immunitaire du système nerveux et du cerveau.
Nous allons voir s'il y a une évolution à prévoir dans les futures années de ce système de défense et comment on peut aussi le modifier nous-mêmes, en particulier par la vaccination, thème débattu que nous allons reprendre après cette pause musicale.
France Culture, Révolution Médicale,
René Friedman.
Thank you.
Voilà. Concerto numéro 9 de Mozart, donc pour nous détendre dans cette vision un peu complexe de nos défenses immunitaires, qui se traduit pas uniquement par de la réflexion théorique, hein, qu'on a un peu de mal à comprendre peut-être entre les cellules T, B et d'autres, et puis ce système de cascade, hein, je dirais, qui joue dans notre façon de nous défendre contre les agressions, et puis ces manques qui aboutissent à des maladies, je dirais, qui sont très extrêmement gênantes, comme le lupus érythémateux, je dirais, par exemple, disséminé, qui peut donc entraîner de véritables problèmes, les scléroses en plaques que vous connaissez, qu'on a citées déjà. Et puis, on essaye donc d'aborder des questions que tout le monde connaît, c'est-à-dire, pour se protéger, c'est l'histoire des anticorps ou d'être mitridatisé, on va dire, hein, pour pouvoir s'opposer à des germes, et des gènes, d'ailleurs, qui peuvent être étrangers. Alors, dans le système de vaccination, reprenons peut-être l'historique d'abord. Philippe Kourilski, puisque vous avez dans ce livre Le jeu du hasard et de la complexité développé cette approche de cette nouvelle science dite de l'immunologie, mais que nous pouvons voir concrètement par ce qui s'est passé donc en 1796 quand Édouard Jenner a commencé à inoculer des pustules, hein, de la variole pour essayer de organiser la défense justement. C'était la première fois qu'on faisait. Non, encore que je crois qu'en Chine, déjà, on pratiquait.
On pratiquait quelque chose d'analogique en Chine.
On demandait à respirer dans les narines les pustules qu'on prenait aux varioleux, aussi dans le but de se protéger. Donc, comment va se créer cette possibilité d'augmenter les défenses lorsqu'on n'a pas la capacité de le faire avec cette inégalité des uns des autres, qui n'est pas tout le monde, même là on voit bien, face au sida, face à l'Ebola, face à tout ce qui arrive là, pas tout le monde a exactement la même façon de réagir. Mais on va essayer d'augmenter d'une façon globale les capacités de tous.
Historiquement, bien sûr, pour progresser, il fallait découvrir les microbes et pouvoir les caractériser. Donc ça, c'est Pasteur, l'école pasteurienne, l'école allemande. Les microbes étant de mieux en mieux connus, on a pu apprécier de mieux en mieux la manière dont ils arrivaient à se développer dans l'organisme. Et là, il se passe plusieurs choses. Ce qui se passe surtout, c'est que, initialement, les approches de vaccination étaient empiriques. En gros, on se disait, on tue le microbe en question, donc ça peut être le microbe de la grippe, ça peut être la polio, ça peut être toutes les maladies que vous connaissez, la méningite, la tuberculose, voilà. Donc on peut soit tuer le microbe, soit l'atténuer, comme on dit, c'est-à-dire qu'on fabrique en quelque sorte une version du même microbe qui fait que il se développe très très peu ou pas du tout dans l'organisme, donc il est vivant mais il ne se développe pas, quoi. Donc on dit qu'il est atténué, mais il est suffisamment vivant, si j'ose dire, pour déclencher une réponse immunitaire, qui va être une réponse qui contiendra des anticorps spécifiques, notamment parce qu'il peut aussi contenir des cellules tueuses spécifiques, c'est un autre segment moins connu et probablement très important. Et c'est là qu'intervient la notion de mémoire, puisque après cet épisode de stimulation de la réponse immunitaire, il se trouve qu'il reste une certaine quantité des cellules spécifiques qui fait que si on est infecté pour de vrai, on dispose de suffisamment de cellules et déjà préparées pour réagir beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement.
Donc la mémoire va durer plus.
Et la mémoire dure parfois très longtemps. On ne sait pas trop combien de temps dure la mémoire. Ça dépend curieusement des agents infectieux, des réactions. C'est un domaine qu'on ne connaît pas très bien. Mais vous vous souvenez sans doute qu'en 2001, nous avons eu des craintes qui n'ont pas d'ailleurs à se terminer tout de suite, obligatoirement, concernant le bioterrorisme. Et à cette époque-là, parce qu'on imaginait notamment que la variole qui a été éradiquée pourrait être réutilisée comme vecteur bioterroriste, on s'est attaché à mesurer la mémoire. Et donc, on a été prendre des gens âgés qui avaient été vaccinés des décennies avant. Et on a découvert que chez certains d'entre eux, la mémoire était très bonne après 40, 50 ans. Bon. Chez d'autres, elle l'était moins. Donc là encore, il y a des variations. On n'est pas tous égaux en termes de réponse immunitaire, ni en termes de mémoire immunitaire. Mais voilà le principe de la vaccination.
Mais là, on a quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est que voilà une maladie, donc la variole, qui a été éradiquée à un moment donné, puisque quasiment éradiquée, puisque la vaccination n'est plus devenue obligatoire, alors qu'elle l'a été pendant un temps. Donc, ce qui veut dire quand même que le système a fonctionné. Je parle de ça,
oui.
Par rapport aux oppositions. Hein, sur l'hépatite B, sur le papillomavirus, on va discuter tout ça, mais voilà un exemple d'une maladie qui a été quasiment éradiquée. Alors là, on redoute la réintroduction oui. par le bioterrorisme, oui. qui est possible d'ailleurs, mais je veux dire, c'est quand même une maladie qui a été éradiquée.
C'est quand même la seule.
Et
la polio est sur le point de l'être, mais elle n'est pas totalement. Et de façon intéressante, la polio ne l'est pas totalement pour un certain nombre de raisons. Des raisons, dans certains pays, tristement culturelles. C'est-à-dire que pour des raisons religieuses, la vaccination est refusée. Mais il y a une autre raison, c'est qu'on a vacciné dans la fin des années 50 avec deux types de vaccins. Le premier, c'était le vaccin vivant, c'est-à-dire un vaccin vivant atténué. Et l'autre, c'était du vaccin sous unité, donc un vaccin non vivant. Le vaccin sous unité, en gros, on purifie la protéine du virus polio, qui n'est pas très variable, il y a quelques sous-types, mais ce n'est pas vraiment variable, et on vaccine avec ça. Donc on déclenche un certain type de réponse immunitaire. En ce qui concerne le vaccin vivant, il coûtait beaucoup moins cher, et il provoque une bonne réaction, et donc il a été très utilisé. Le problème du vaccin vivant, c'est que les vaccinés en relâchent dans la nature, et qu'il est arrivé que le vaccin vivant se recombine avec d'autres virus pour donner de nouveau un virus un peu virulent.
Actif.
Et du coup, la recommandation, alors ça s'est produit très rarement, hein, c'est pas du tout un événement mondial, mais ça s'est produit suffisamment pour que l'Organisation mondiale de la santé recommande maintenant l'usage du vaccin sous unité pour éviter ce phénomène. Donc le gros obstacle qui reste en matière de vaccination contre la polio est l'obstacle culturel et religieux.
Mais l'obstacle religieux, j'ai envie de dire que dès le début, hein, dès le 19e siècle, on a des oppositions fabuleuses, puisque je dirais l'inoculation qui était gratuite en Angleterre après la découverte de Jenner a entraîné évidemment une ligue, je dis évidemment, évident, enfin bon, c'est comme ça, une ligue anti-vaccin en 1869 avec le statut d'objecteur de conscience. Donc on a des oppositions sur le principe, en évoquant donc un certain nombre de risques de la vaccination, dont il est quand même important de répondre point par point.
Oui.
Alors il y a différentes choses qui sont, qui sont du domaine de la fabulation, c'est-à-dire par exemple la vaccination contre la rougeole entraînant l'autisme. Ça a été pendant toute une période, il fallait répondre à ce genre de choses. Alors, mais il y a des choses peut-être plus récentes qui méritent réflexion. L'hépatite B et la sclérose en plaques, justement.
Oui.
Qu'en est-il ?
Alors, je crois pouvoir dire honnêtement qu'il est établi qu'il n'y a aucun lien entre la vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques. Je crois que ce qui s'est produit en France, lorsque cette polémique a éclaté, c'est que on avait vacciné à marche forcée la moitié du pays, donc un nombre considérable de personnes contre l'hépatite B, et que, évidemment, la probabilité de coïncidence entre la vaccination et d'autres épisodes de maladie n'était pas nul. Donc ces coïncidences ont été repérées. Il se trouve qu'elles ont été repérées avec la sclérose en plaques. Mais il faut savoir que, curieusement, la France était le seul pays où ça a été repéré.
Et que le vaccin, le mode de vaccin était mondial, identique.
Mondial. C'est pas une spécificité. Il faut savoir aussi que le rapport bénéfice-risque concernant ce vaccin est étendu au fait que la vaccination contre l'hépatite B protège, bien sûr, contre d'éventuels cancers du foie liés, ou cirrhose, bien sûr, liés à l'infection contre l'hépatite B, et que dans un pays comme Taïwan, où la fréquence des cancers du foie était très élevée, il est maintenant démontré qu'il y a une chute considérable du nombre de cancers du foie grâce à la vaccination. Donc, le bénéfice était très important, mais la polémique a pris une telle dimension que le gouvernement de l'époque a cru bon de ne plus recommander la vaccination comme obligatoire. Alors c'est une décision un peu lourde. Évidemment, chacun était libre de se faire vacciner, mais c'est une décision un peu lourde puisque les gens qui ne se sont pas fait vacciner sont plus à risque que d'autres de développer plus tard non seulement une hépatite B, mais une cirrhose et un cancer du foie. Et donc cette décision fera des morts.
Qu'est-ce qui se passe au niveau des vaccins auxquels on a beaucoup de demandes contre le papillomavirus, c'est-à-dire ce virus qui peut séjourner au niveau du col utérin et qui peut entraîner ensuite des cancers, je veux dire, au niveau du col. Et donc, il y a des campagnes d'information sur la nécessité de vacciner les adolescentes,
oui,
on va dire, pour éviter donc la survenue de cancer d'utérus. Alors là aussi, je veux dire, on est sorti, je veux dire, des vaccinations dès la naissance, de la petite enfance, et on a, je dirais, dès l'adolescence, à nouveau une vaccination. Les craintes, qu'est-ce que vous avez comme connaissance sur... Y a-t-il des craintes? Y a-t-il un risque particulier? Faut-il vacciner toutes les petites filles? Enfin, les adolescentes, plus exactement.
Je n'ai pas connaissance de risque particulier. Ceci étant, les études globales sur la vaccination montrent qu'il y a quand même, aujourd'hui, dans presque toutes les vaccinations, un petit pourcentage d'accidents, très petit. Il n'est pas toujours strictement imputable à la vaccination, et je vais vous donner un exemple. C'est celui de la vaccination pour le BCG. Dieu sait qu'on a vacciné avec le BCG contre la tuberculose. Le vaccin est imparfait, mais enfin, il a quand même fait pas mal de bien. Hein.
Oui, il y avait
beaucoup de tuberculose. Oui, bon, alors maintenant, c'est moins urgent, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup moins de tuberculose. Encore que la tuberculose multirésistante nous revienne, et notamment à cause de l'épidémie de sida. Mais pour revenir à la tuberculose en tant que telle, des études très précises ont été faites sur les cohortes d'enfants, en nombre très limité, hein, quelques dizaines, ce qui faisait ce qu'on appelle une BCGite, c'est-à-dire un accident, une infection à BCG, après vaccination par le BCG. Donc l'étude a été faite, et la réponse est d'une limpidité totale, ce sont tous des mutants. Ils ont tous des mutations dans des petits segments du système immunitaire, ce qui fait qu'en réalité, ce sont des immunodéficients, des enfants, qui maintenant sont des adultes, bien entendu, qui ont des immunodéficiences, c'est-à-dire des petits défauts du système immunitaire dans tel ou tel gène, etc. De telle sorte que ça n'aurait servi à rien d'améliorer, par exemple, la pureté du vaccin. Ça n'a aucun sens. Le problème n'est pas là. Le problème est que la vaccination révèle une hétérogénéité génétique dans la population.
Alors, faut-il la rechercher? Faut-il vacciner tout le monde?
On arrivera à la rechercher. Mais d'ici là, je pense que c'est extrêmement difficile parce que rechercher ces défauts dans la population générale, il faudrait probablement avoir la séquence du génome humain de tous les individus et deuxièmement, savoir exactement ce que veulent dire toutes les immunodéficientes et on n'en est pas là. Donc je pense que la manière pragmatique de faire, c'est vraiment de repérer les individus qui ont une forme de risque, effectivement de les dégager du programme de vaccination. Mais encore une fois, les risques globaux sont extrêmement faibles. les enfants qui ont été touchés par cette BCG-8 en France, je crois que c'est moins d'une centaine par rapport aux dizaines ou centaines de millions de dizaines de millions de vaccinés dans le temps.
Alors, est-ce que ça veut dire que certaines vaccinations doivent rester obligatoires et qu'on ne peut pas faire le principe de l'objection de conscience ?
On peut nuancer, si vous voulez, cette assertion de la façon suivante. Les épidémiologistes s'accordent à dire qu'une épidémie ne se propage que lorsque une fraction significative de la population n'est pas vaccinée. Et en gros, quand 80-90% d'une population est vaccinée, il n'y a pas à craindre de propagation d'épidémie. En gros. Hein. Et ça peut dépendre des agents infectieux et d'un certain nombre de conditions. Cela veut dire que, collectivement, nous pouvons nous autoriser à voir 10% d'une population qui n'est pas vaccinée. Mais on a bien vu ce qui se passait justement avec la rougeole en Angleterre, avec cette rumeur dont on sait maintenant qu'elle était totalement absurde, de corrélation avec l'autisme. On a suspendu la vaccination, et bien entendu, quelques années plus tard, vous aviez des foyers épidémiques qui sont revenus. Donc, il faut quelque part respecter cette règle. Donc, on peut avoir une marge d'acceptation de non-vaccination, mais elle ne peut pas être trop grande, sinon c'est la population générale qui est à risque.
Alors, revient à la question, mais qui décide de la politique vaccinale alors ?
La puissance publique. Voilà.
Et donc, si vous faites une ouverture comme ça et que vous voulez la limiter à quelques pourcentages, est-ce que ça veut dire que les procédures d'opposition doivent être suffisamment lourdes pour ne pas faciliter le torrent de la contestation facile, je dirais, dans certains milieux ou dans certaines sociétés ?
C'est une sorte de négociation sociale qui est compliquée. Vous avez aujourd'hui des médecins qui délivrent des autorisations de ne pas vacciner avec des fondements médicaux un peu discutables, si vous voulez. Tant que ce phénomène ne prend pas une trop grande ampleur, encore une fois, il est tolérable. L'un des problèmes de l'échec de la vaccination contre H1N1,
oui.
L'un des problèmes de cet échec, parce que ça a été un échec de la politique publique, c'est que ça a installé dans l'opinion l'idée que se vacciner ne servait pas à grand-chose. Voilà.
Et donc, pourquoi ça a installé cette opinion-là ?
Parce que l'épidémie de grippe H1N1 a été présentée comme un des grands fléaux qui risquait de ressembler à l'épidémie de peste du Moyen-Âge et puis à l'épidémie de grippe de 1918-1919 qui avait tué 50 millions de personnes. L'Organisation mondiale de la santé a monté le niveau de recommandation au niveau maximum et les pays comme la France se sont mis en route avec un dispositif lourd et coûteux, c'est vrai. Et puis, en gros, l'échelle a été tirée tout simplement parce que le virus s'est avéré beaucoup moins dangereux qu'il ne paraissait au départ. Du coup, on en a conclu qu'en France, on avait déployé un dispositif beaucoup trop important, ce qui est peut-être vrai, peut-être pas vrai, parce que si l'épidémie s'était vraiment déclarée, je pense qu'on aurait été très content d'avoir ce dispositif, mais enfin bon. Mais du coup, dans l'opinion publique, dans une partie de l'opinion publique, s'est installée l'idée que ce type de vaccination, ça ne servait pas à grand-chose et qu'on pouvait se protéger spontanément. Donc, il y a un problème, effectivement, d'acceptabilité et de compréhension de ce qu'est la vaccination. Et je pense qu'une partie du problème, et ça je tiens vraiment à le dire, c'est que beaucoup de gens ignorent que se vacciner, ça n'est pas uniquement se protéger soi. Parce que se vacciner, c'est également bloquer la propagation de l'agent infectieux. On peut très bien être porteur sain, comme on dit, d'un virus, d'une bactérie, enfin d'un certain nombre de pathogènes. Un porteur sain, c'est quoi ? C'est un individu qui est infecté, par exemple, par un bacille quelconque, le bacille tuberculeux, entre autres. Bon. Il ne ressent pas grand-chose, peut-être un petit coup de fatigue ici et là, et puis voilà, c'est tout. Bon. Et puis en fait, il est contagieux, et donc il passe aux autres. Et la vaccination réduit considérablement ce risque. Donc se vacciner n'est pas seulement se protéger, c'est protéger son environnement et au sens large la population.
Et mais, son entourage.
Oui, et son entourage.
Les gens sont sensibles à ça. Mais le débat aussi qui a eu lieu sur l'adjuvant, sur le rôle des adjuvants dans la vaccination comme quelque chose de négatif, que ce soit l'aluminium ou d'autres choses, qu'est-ce qu'on peut en tirer ?
Rien.
Bon.
Rien. Donc, je pense que c'est vraiment, si vous voulez, on a atteint des niveaux de sécurité qui forcément ne sont pas parfaits. Cela ne veut pas dire qu'on peut progresser beaucoup plus avant. Et encore une fois, même si c'est une notion qui est difficile et désagréable, il faut quand même évaluer collectivement le rapport coût-bénéfice. On a mis en cause, par exemple, le mercure, le thiomersal, comme conservateur dans les vaccins. Si on avait retiré le thiomersal des vaccins, on aurait fait des millions de morts dans les pays en développement. Parce que les coûts de développement de nouveaux vaccins sans thiomersal, c'est peut-être pas impossible, mais c'est des fortunes. C'est des milliards d'euros à chaque fois.
Ça n'aurait pas été fait.
Ça n'aurait pas été fait. Ou ça aurait augmenté le coût des vaccins à un point tel que les pays en développement n'auraient pas pu se les payer.
Mais quand même, sur donc un point qui est important venant de vous, Philippe Kowalski, c'est qu'il n'y a pas eu de démonstration d'un effet pervers à risque, de façon quantitativement importante, du système de vaccination. Il peut y avoir des conjonctures, il peut y avoir peut-être des réactions différentes d'individu à individu, mais je dirais globalement, sauf à des cas particuliers de déficience ou de situation pathologique, la vaccination doit être acceptée. C'est votre sens ?
Ah, absolument. Il faut aussi souligner que dans l'histoire, il y a eu des accidents, mais ces accidents étaient liés soit à une impureté majeure des vaccins, soit encore au fait que, dans certains cas, notamment dans les pays en développement, on a vacciné avec la même seringue. Et on sait ce que ça a donné avec le sida. Donc, si vous voulez, à l'époque, on n'imaginait pas qu'en vaccinant des individus, on pouvait propager une maladie mal connue qui était présente chez certains d'entre eux, et malheureusement, ça a eu lieu dans un certain nombre de situations. Aujourd'hui, la pureté des vaccins est vraiment excellente, et ces pratiques de vaccination sont maintenant complètement réglées, donc les risques sont vraiment totalement minimisés.
Donc un message plus serein, par rapport à ce sujet. Philippe Kowalski, nous avons donc brassé d'une part votre parcours, d'autre part nous avons essayé de pénétrer dans ce livre du jeu du hasard et de la complexité qui donnera quelques éléments de compréhension de cette nouvelle science de l'immunologie qui reste en plein développement, en pleine compréhension. Et puis, nous avons donc abordé avec vous une application des bases de l'immunologie, c'est-à-dire la vaccination. Merci de votre visite à France Culture. Cette émission de René Friedman a été préparée avec la collaboration de Catherine Denet, réalisée par Dany Journeau, avec Philippe Palares à la prise de son. Vous pouvez podcaster cette émission durant un an et la réécouter pendant 1000 jours sur le site internet de France Culture sur www.franceculture.fr. Demain, dans le cadre des émissions scientifiques de France Culture, vous pourrez écouter Planète Terre de Sylvain Kahn. Dans quelques instants, retrouvez Tout un monde de Marie-Hélène Fraissé, puis Le Salon Noir de Vincent Charpentier. Et tout de suite, vous retrouvez Les Bonnes Feuilles de Sandrine Trainer. À la semaine prochaine.